Je connais et j'aime l'espéranto depuis longtemps, depuis une bonne trentaine d'années. Et il y a deux choses que je voudrais mentionner. C'est que je connais pas mal d'ouvrages en différentes langues nationales, disons, traduites en espéranto, mais aucune dans le sens inverse.
Si, si, si.
Original espéranto
oui, oui, oui.
Est traduit en français ou
ça
allemand
existe.
Ou russe.
Ça existe. Le grand exemple, c'est...
Conscience.
Oui, mais ça existe. Le grand exemple, c'est le Kon-Tiki.
Comment?
Le Kon-Tiki, c'est un récit d'aventure. Je ne me souviens plus l'auteur. C'est un auteur finlandais, je crois.
Thor Heyerdahl.
Voilà, merci. Ça, ça a été écrit d'abord en espéranto. Et il y en a un autre qui est Kumewawa de Tibor Sekei, qui est une très belle histoire d'Amérique du Sud, avec une rencontre entre un explorateur et un jeune homme qui lui sert de guide. D'accord, merci. Et Kumewawa est un livre qu'on peut lire à partir de l'âge de 10 ans, qui a été tout récemment traduit par Madame Anne Josian, française. Et maintenant, il existe dans les bibliothèques, vous pouvez l'offrir à vos petits-enfants. C'est une très très belle histoire, avec un rapport dans le respect entre cet explorateur qui venait de Croatie et cet enfant indigène qui l'a mené dans sa découverte de l'Amérique du Sud. C'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent d'avoir la traduction d'une langue nationale vers l'espéranto, comme la littérature, on a parlé de Kawabata, etc. Mais l'inverse existe aussi, ça c'est sûr. Maintenant, évidemment, en moins grand nombre, vous avez raison. Maintenant, vous dites que vous avez entendu parler de l'espéranto depuis 30 ans, vous le parlez ?
Oui.
D'accord. Ça me fait très plaisir. Mais on ne va pas passer à l'espéranto parce qu'il y aurait quelques frustrés dans la salle.
Et puis une deuxième chose.
Deuxième chose.
C'est que vous n'avez pas mentionné, et je trouve que ça mérite de l'être, que l'espéranto est très en honneur en Hongrie. Où il est, pour passer le bac, enfin monsieur, je laissais dire, l'espéranto est considéré au même titre que n'importe quel autre.
C'est tout à fait juste.
C'est vrai ou c'est faux?
C'est tout à fait juste. Et quand je vous entends parler, je suppose que vous êtes de Hongrie, non?
Lettonie.
D'accord, Lettonie. Ça, c'est les Pays-Baltes. Alors, en Hongrie, c'est le statut dont tout le monde rêve pour l'espéranto. Et on a une brochette de Hongrois qui sont très célèbres. Depuis István Szerdahelyi qui a géré tout l'enseignement à l'université Eötvös Loránd à Budapest. On a maintenant le site educado.net. Marcel, tu peux écrire educado.net, ce serait super. Qui est géré par Kataline Kovács, qui est une dame hongroise. On a les études à Poznan qui sont dans les mains de Ilona Kutny, qui était aussi hongroise et qui est maintenant en Pologne. Et on a Marta Kovács qui fait les examens. Tous les examens dont je vous ai parlé du cadre européen des langues sont préparés à Budapest et le diplôme que j'ai reçu pour le C1 en espéranto et le diplôme qui me permet de faire passer les examens sont en hongrois et il y a 4 ou 5 langues dans l'espéranto. Mon diplôme vient de Budapest, c'est tout à fait juste. Et la conférence des profs aura lieu à Nyíregyháza en juillet 2016, où je vais devoir aller parce que j'ai la présidence de cette ligue mondiale. Et on va célébrer effectivement cette influence de la Hongrie. Le hongrois étant une langue tellement isolée par rapport aux autres langues germaniques, slaves ou latines, on a effectivement une grande ouverture. Mais si je prends la Hongrie et je relis ça avec les langues dominantes, je me suis laissé dire que au moment de l'Union soviétique où la langue dominante était évidemment le russe, les savants de ces régions-là se sont remis à se parler en latin pour pas se parler russe. Vous voyez la stratégie pour éviter la langue dominante. Bien, le micro peut circuler. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames, messieurs?
Educado, c'est en espagnol?
educado.net, c'est de l'espéranto.
Et espagnol ou polonais educado, comment c'est écrit?
Espéranto.
C'est de l'espéranto.
Non, mais, pardon. Je dis, madame, elle avait écrit en espagnol d'abord.
Ah, c'est pas trop bête.
Non, non, mais c'était une faute, erreur.
Est-ce que c'est en espagnol ou en polonais?
Ni l'un ni l'autre.
Voilà.
Le site educado.net, et il y a 3W points avant educado.net, mais vous savez mettre 3W, j'imagine. C'est un site qui est pour les apprenants et pour les profs, qui est une mine d'exercices et de renseignements et de.
La question c'est où est-ce qu'il est?
C'est avec un K. K ou C?
K. Ça, c'est juste.
C'est pour ça qu'on le trouvait, en fait.
www.educado. En fait, c'est en espéranto. Et en espéranto, le son que se
c'est
fait
toujours,
en K.
Toujours
et moi,
K.
J'ai écrit comme ça parce que ben, je suis en train de penser en
d'accord.
français.
Merci, c'est en voilà. espéranto.
Alors, le site est géré par Kataline Kovacs qui se trouve à l'AE, si ça vous intéresse. Mais ça ne joue pas de rôle parce que avec votre ordinateur puis Internet, vous pouvez être n'importe où dans le monde, ça fonctionne. Quand on a une bonne connexion, évidemment.
Vous me pardonnerez de ne pas être espérantiste et de ne pas parler d'espéranto, mais je me permets deux petites questions. Vous avez cité un chiffre, 3 à 5 millions de personnes dans plus de 125 pays. Comment vous interprétez ces chiffres? Et deuxième petite question, quand en Suisse vous accueillez des migrants ou des demandeurs d'asile, en quelle langue s'exprime-t-il?
Alors, il est vrai que dénombrer les gens qui parlent espéranto, c'est quelque chose de très difficile. Parce que vous pouvez dénombrer des gens qui ont un passeport français ou un passeport suisse, parce qu'on l'a ou on l'a pas. Si je vous enseigne pendant 10 minutes « is, as, os » et puis les terminaisons des substantifs et tout, est-ce qu'on va vous compter comme espérantophone? Ou bien est-ce que vous faites deux ou trois cours avec monsieur et madame ici à Orléans? On ne peut pas définir à partir de quel niveau on va considérer une personne comme espérantophone. Je ne sais pas si on peut me compter par exemple comme anglophone. Je me débrouille en anglais, mais sans plus. Donc c'est très difficile. Je vous donne juste l'exemple. J'ai lu au niveau de l'Inde qu'il y avait 40% de gens qui parlent anglais en Inde. Dans un autre texte, j'ai lu 7%. J'ai discuté avec M. Girida Rao, qui est prof d'Uni en Inde. Je lui ai demandé, cher ami Giri, est-ce que c'est 40 ou est-ce que c'est 7? Il m'a dit, c'est moins de 7. Alors, il y a des gens, pour compter les espérantophones, qui ont pris les sociétés nationales, les 71, puis qui ont additionné les membres. Mais vous avez des quantités de gens, maintenant, des jeunes, qui apprennent avec lernu.net, ou avec Duolingo, ce nouveau cours qui existe, qui est en anglais. Et puis ces jeunes, en général, bon, c'est des gens qui sont sur Internet, les cours sont sur les téléphones, vous pouvez étudier ça sur le trottoir ou dans le métro. Ils sont répertoriés nulle part. Ils peuvent voyager, ils peuvent lire la littérature, ils peuvent participer à des congrès, ils ne sont pas membres de Esperanto France. Duolingo, c'est, attention, Duolingo, il n'y a pas le V. Voilà. Je ne sais plus si c'est .net ou .org. Duolingo.org, c'est possible. Et puis encore YouTalk. Puis YouTalk, il est .com, je crois. U-T-A-L-K. Ouais. YouTalk, on peut l'avoir dans différentes langues. Tandis que Duolingo, .com. Voilà. Alors, le plus ancien qui fonctionne très bien, c'est lernu.net. Et là, vous pouvez choisir le français, mais vous pouvez aussi mettre comme langue de départ l'allemand ou l'anglais ou autre chose. Ça fonctionne très, très bien. Et c'est aussi un cours qui existe pour apprendre l'allemand, pour apprendre le slovaque. C'est toute une entreprise en Slovaquie qui gère ça. Et maintenant, on a Duolingo depuis mai 2015 à raison de 2000 débutants par jour. Donc, on assiste à une explosion qui va être un gigantesque défi pour les les clubs locaux à Orléans et ailleurs, et nos congrès, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais on est en prévision maintenant d'une grande explosion. C'est très intéressant. C'est, évidemment, je suis ça avec intérêt et on verra comment ça se passe. Donc, c'est clair que dans le nombre, on est dans des estimations. Il y a des gens qui disent 10 millions. Puis il y a des gens qui disent que vraiment parler couramment maîtrisé, il y en a 100 000. Mais je ne peux pas vous donner une référence précise. Maintenant, il y avait une deuxième question que vous allez me rappeler, parce que j'ai oublié de prendre des notes.
Oui, quand vous accueillez des migrants,
oui, les migrants.
Les demandeurs d'asile en Suisse, quelle langue apprennent-ils ?
Alors, je me souviens de votre première question et ce n'était pas la même. Parce que celui qui arrive en Suisse comme migrant ou requérant d'asile, il a sa langue de son pays, il a peut-être des notions de français, allemand, anglais ou autre chose. Donc, on va essayer de trouver des gens, des interprètes qui vont avoir, si possible, une langue commune avec lui, histoire de pouvoir échanger et communiquer. Maintenant, s'il est autorisé à s'installer en Suisse, on a le principe du sol. On a des langues qui sont liées au territoire. C'est-à-dire que si son domicile est dans mon village du Brenais, eh ben, il parlera, il devra apprendre le français et les enfants seront scolarisés en français. Il y a une ville bilingue en Suisse, c'est Bienne, où on a le français et l'allemand. Là, il y a un réel choix. Mais autrement, vous habitez à Herzogenbourg, vous êtes scolarisé en allemand. Vous êtes à Bellinzona, vous êtes scolarisé en italien. Ça, c'est le système suisse, c'est la loi des langues est liée au territoire. On a 70% de soi-disant germanophones qui parlent leur dialecte. On a 20% de francophones et 10% d'italophones. Mais ça, c'est un schéma qui n'a rien à voir avec la réalité, parce qu'on a 23% de non-suisses qui parlent des centaines de langues. Donc, si je vous dis 70%, 20 et 10, vous voyez un beau camembert, puis vous dites, voilà, c'est bon, j'ai compris, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a tout un mélange. Parce que on peut arriver en Suisse, avoir des enfants et des petits-enfants, et on est toujours italien ou espagnol ou portugais, parce qu'on a la loi du sang. Donc, il y a des gens qui sont installés en Suisse avec un permis d'établissement et ils n'ont aucun envie ou besoin d'acquérir le passeport suisse. Voilà. J'espère avoir répondu avec satisfaction. Oui, monsieur ici, Jean. Attendez, le micro arrive. Le micro arrive.
Merci. Vous parliez de nouveaux inscrits sur duolingo.org. Est-ce que vous avez une idée de leur provenance, de leur langue initiale ?
Alors, le cours existe pour l'instant que en anglais. Ça veut dire que ceux qui travaillent sur ce programme sont des anglophones. Mais ils sont dans le monde entier. Ils ne sont pas seulement dans les pays anglophones. Parce que vous avez des anglophones en Suède, vous avez des anglophones en Chine ou au Japon. Mais la langue pour travailler, et il y a de la traduction dans Duolingo, c'est en anglais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une page sur Facebook qui s'appelle Esperanto Duolingo Learners, où ces gens posent des questions, recherchent des partenaires pour faire du Skype ou pour se rencontrer. Et moi, je suis évidemment ce qu'il y a sur cette page. On sait très peu, en fait, pourquoi ils commencent l'étude de l'espéranto. Ça viendra quand on se rencontrera dans des congrès, mais ils expriment leurs besoins. Donc, nous, dans le mouvement, on est en train de réfléchir à avoir plus d'exercices, parce que le cours, c'est une espèce de squelette de la langue. Donc, il faut de la pratique, il faut des exercices un peu pour meubler tout ça. Et alors, ils le demandent tout de suite, des contacts. Et c'est tout à fait clair que quand quelqu'un est débutant, il faut très rapidement que la personne soit dans un contexte international. Parce que le jour où vous trouvez face à une personne où vous n'avez que l'espéranto pour parler, tout le monde va pouvoir, tout espérantophone, va pouvoir vous raconter cette première expérience. Peut-être que c'est un peu comparable à la première expérience sexuelle, je ne sais pas. Mais c'est marquant. On s'en souvient. C'est Brassens qui disait « on n'oubliera jamais ». Bon. Moi, je me suis trouvée devant un ferblantier hongrois qui parlait aussi slovaque et espéranto. Je parle ni hongrois ni slovaque. Donc, c'était l'espéranto ou rien. Puis je disais trois petites phrases, puis on n'a pas discuté longtemps parce que j'étais vraiment pas capable. Mais c'est marquant. Puis j'ai vu des quantités de jeunes qui étaient là autour de moi, puis qui m'ont dit, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pu utiliser avec celui-là. Il parle. Bon, c'est clair que si je suis en Afrique, je parle avec des Béninois espérantophones, ben on peut aussi se parler français. Avec monsieur et madame chez qui j'habite ici aux Aubrais, merci. Je dois réviser ma géographie française. On a le choix de parler espéranto ou français selon les envies, le moment, si on est endormi ou fatigué, ben on va choisir une ou l'autre. Mais quand vous avez eu le journaliste Stano Marček, ben il parle slovaque, espéranto, peut-être un peu polonais, je sais pas, mais il y a l'espéranto ou rien. Sauf si vous parlez par hasard aussi slovaque. Donc ça, c'est des expériences qui sont très marquantes. Et les congrès, on a eu ce congrès à Pékin en 2004, où on a réservé un immense centre de congrès, et les Chinois sont allés réserver le centre, ont vu l'administration, et puis à la direction, on leur a dit, on peut vous fournir des interprètes dans 16 langues. Et puis les Chinois, espérantophones, ont dit, on n'en a pas besoin. Puis on était au Grand Palais en juillet, on avait 2800 personnes en juillet 2015, on voit à Lille, oui, excusez, bon, on voit les installations des interprètes, on voit les casques qui pendent, qui attendent, et puis ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin. Mais effectivement, c'est difficile à imaginer. Mais c'est très important pour les espérantophones et surtout les débutants qui soient rapidement plongés dans cette ambiance, parce que là on se rend compte, dans une pipe on peut discuter. Vous voyez, on a une chance folle. Ce soir, on a en commun le français. J'ai fait de la radio et de la télé au Bénin et au Sénégal avec des Africains, on a le français en commun. Eh bien, on peut discuter de tout et de rien, on a une langue. C'est un autre monde quand je suis en Afrique. Les différences entre les Suisses et les Français, elles sont aussi assez importantes. Je pourrais vous faire une conférence sur ça. Je ne vais pas entrer en matière. Mais on a une langue en commun. Eh bien, cette qualité de contact avec l'espéranto, vous l'avez avec un Chinois, vous l'avez avec un Japonais, vous l'avez avec un Chilien, vous l'avez avec un Russe ou un Kazakh. C'est juste génial. Et en parlant en français maintenant, vous pouvez imaginer. Cette qualité, on peut faire des suppositions, on peut faire des remarques, on peut poser des questions. Il faut demander aux Japonais pourquoi vous laissez les souliers sur la porte. Et puis les Coréens, ils les laissent aussi, mais c'est pas rangé, c'est toujours en salade en Corée. Tandis qu'au Japon, c'est aligné. Et puis les Coréens m'ont dit, les Japonais, ils alignent les souliers comme ils alignent les bateaux de guerre. Donc là, vous avez les souvenirs de la colonisation japonaise en Corée. Ils m'ont dit, pourquoi tu restes un mois en Corée et puis tu vas 6 mois au Japon? Ils s'étaient fâchés, les Coréens. Bon, tout ça, vous avez... Bon, je pourrais raconter des incidents de ce genre pendant quelques jours. Mais ça vous donne une petite idée de la qualité des contacts, puisque ça peut être enrichissant. Madame.
Merci. Vous parlez de la qualité des contacts, mais lorsque deux personnes parlent une langue qu'ils ont appris, une langue qui n'est pas leur langue maternelle... s'expriment ensemble, que leur langue maternelle n'est pas la même, c'est parfois extrêmement difficile parce que nos propres accents, puis les accents de ceux qui parlent, font qu'on ne se comprend pas du tout. Est-ce qu'en espéranto, vous êtes confronté à ce même problème?
C'est vrai que quand on parle espéranto, on a souvent, mais pas toujours, l'accent qui dévoile la langue maternelle. Vous avez des Russes qui vous parlent espéranto avec un accent. Moi, j'arrive pas. Moi, je suis pas douée. Mais alors, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai enregistré 39 personnes qui parlaient 32 langues. C'était très simple. J'étais dans un bus pendant une excursion dans un congrès. J'ai un petit appareil de photo qui doit se balader dans la salle, qui filme très bien. Et j'ai dit aux gens, racontez-moi 2 minutes quelque chose. Alors, vous avez l'allemand, on entend son... Vous savez, les Allemands, ils disent Prost, et puis thé, café, avec le petit H après PTK. Ça, vous entendez en espéranto la même chose. Les Japonais qui mélangent, les Espagnols qui mélangent le B et le V, les Japonais qui mélangent le R et le L, ou bien qui mettent des U muets entre les consonnes quand il y a deux consonnes à la suite, on retrouve tout ça. Et ça, c'était un de mes exercices, de mes travaux pour à l'université à Poznan. C'est vrai, mais en général, on arrive à se comprendre. Mais c'est vrai que parfois, ça pose des problèmes. Alors, une de mes tâches dans les congrès depuis 2002 jusqu'à 2016 était de présenter la soirée finale où les congressistes s'annoncent pour monter sur scène et chanter quelque chose de leur culture ou faire une danse en kimono. Et il y avait une Chinoise qui voulait chanter, mais on ne comprenait pas ce qu'elle voulait chanter. Alors, elle me disait... Se vi estus roso, mi volus esti rosso. Se vi estus herbeto, mi volus esti la suno. Se vi estus angelo, mi volus esti la cielo. Se vi estus corallo, mi volus esti la maro. Ce qui est superbe. Mais elle m'a dit coraro. Coraro. Mais je crois qu'elle m'a répété 17 fois. Et finalement, un peu par déduction, parce que si tu étais, nanana, j'aimerais être la mère, c'était le corail, qui est corallo. Si je prononce le R français, ça fait corallo. On doit éviter ce R français en espéranto, parce que les Chinois comprennent un R comme dans Michael, qui est le H avec le circonflexe. Donc, corallo. Donc finalement, pour qu'elle puisse chanter, j'ai appris par cœur son poème, je suis montée sur scène avec elle, j'ai dit au micro son poème, puis ensuite elle l'a chanté. Ça veut dire que les gens avaient une chance de comprendre. Si tu étais une rose, j'aimerais être la rosée. Si tu étais une herbe, j'aimerais être le soleil. Si tu étais un ange, j'aimerais être le ciel. Et si tu étais le corail, j'aimerais être la mer. Se vi estus roso, mi volus esti rosso. Se vi estus herbeto, mi volus esti la suno. Se vi estus angelo, mi volus esti la cielo. Se vi estus corallo, mi volus esti la maro. Voilà. Est-ce qu'il répondit à votre question?
En fait, j'ai écouté avec attention, oui, mais j'avoue ne pas toujours savoir si c'est plus facile que dans d'autres langues ou plus difficile.
Alors, la langue en elle-même a des sons très clairs. C'est-à-dire, vous avez 5 voyelles comme vous avez, ou sons vocaliques comme vous avez en japonais. A, I, U et O. Donc, il n'y a pas de un, on, un, un. Il n'y a pas de nasal. Il est clair que nous, francophones, on doit apprendre le R de Michael. On a par exemple Paroho pour la paroisse et Chaoso pour le chaos. Ça, c'est un son qui n'existe pas en français. On a Hundo avec un H comme en allemand. C'est un son qui n'existe pas en français. Donc, on va reconnaître les francophones s'ils massacrent le H ou ne le prononcent simplement pas. On a des accents, évidemment. Maintenant, ça dépend si la personne est débutante ou elle est avancée. Et puis, j'ai déjà remarqué, il y a des gens qui gardent plus leur accent de la langue maternelle ou d'autres qui le gardent moins. Je ne sais pas à quoi ça tient. Mais j'ai eu à Zurich, en français, un élève qui parlait allemand à la maison, qui était le fils de Erich Kästner. Si par hasard vous connaissez l'écrivain Erich Kästner, j'avais son fils dans les années 70 à Zurich. Il a fait ses débuts de français avec moi et il avait un accent parisien français. Mais j'ai pas d'accent parisien. Mais sa manière de parler naturelle en bon allemand, avec mes cours, a donné... Moi, j'entendais un accent parisien. C'était très, très fin. Et ça me faisait penser... Et alors, Je ne peux pas expliquer ça, mais avec Thomas Kestner, je l'ai constaté. Bon, c'est un exemple. Peut-être qu'il était exceptionnel, je ne sais pas. Avec un père comme ça, peut-être qu'il était exceptionnel. Bon, voilà. D'autres questions?
Ce n'est pas vraiment une question. C'est pour savoir si il y a eu des essais comparatifs éventuellement entre l'espéranto et la langue des signes, qui l'un et l'autre ont une vocation universelle.
Les Anglais en langue des signes ne se comprennent pas avec ceux des États-Unis. Alors, la langue des signes universelle, à l'ONU à Genève, le responsable de Handicap International m'a supplié qu'on ait bientôt une langue des signes universelle. Et on y travaille. Il y en a deux en espéranto. Alors, déjà en 2009, je me suis renseignée. On en a deux. J'ai pas retenu les noms. On les trouve sur Wikipédia même. Et on m'a dit à l'époque qu'elles étaient pas au point, que ça fonctionnait pas bien. Et on m'a dit maintenant que c'était en progrès. Alors, c'est clair que la langue des signes et les langues des signes qui sont utilisées actuellement sont liées à une langue. Et on m'a assuré qu'il n'y en avait même pas qu'une seule en anglais. Et c'est évident qu'il faudrait arriver à unifier ça. Et ce monsieur Vermeulen que j'ai vu de Handicap International à l'ONU à Genève, on a eu une présentation où les espérantophones délégués d'OEA au Conseil des droits de l'homme ont réussi à faire venir une dame. Si j'avais mon ordi, j'ai le film dans mon ordi, mais il est en Suisse. C'est une jeune femme sourde qui a fait sa déclaration. C'était 3 jours au Conseil des droits de l'homme sur les droits des minorités. Et il y avait justement les handicapés, il y avait différentes... Je me souviens plus exactement. Mais dans le cadre des handicapés, c'est Stéphane O'Keller qui avait réussi à faire venir cette jeune femme. Et elle avait 2 interprètes. Donc, normalement, à l'ONU, vous êtes comme ça, vous avez un micro. Quand il vient le rouge ici, vous avez la caméra automatique qui vient sur vous, vous êtes sur grand écran. Alors, son micro allait à son traducteur qui était là. Donc, elle parlait, puis lui disait en français ce qu'elle disait en langue des signes. Et ça, c'était une première.
Je vais vous raconter une petite anecdote, pour le plaisir. J'ai reçu dans le cadre de mon travail un groupe de japonais.
Il faut mettre le micro tout près des lèvres, il faut qu'il touche. Oui.
Qui étaient des personnes sourdes. Qui étaient des personnes sourdes.
Ça marche.
Et nous avions invité des personnes sourdes d'Orléans. Et pour traduire ce que je pouvais dire, c'était une cascade infernale, puisqu'il fallait passer par l'anglais, de l'anglais, enfin vous voyez bien,
oui.
C'était compliqué. Et le soir, tout ce beau monde s'est retrouvé à la mairie d'Orléans. Et il y avait toujours les traducteurs, français, anglais, les uns, les autres.
Puis anglais, japonais.
Dans la langue des signes. Et au bout d'un moment, j'ai vu que les traducteurs étaient sur la touche. J'ai donc demandé à une des personnes sourdes d'Orléans, que je connaissais bien, comment ça se passait. Et il m'a dit, on garde les traducteurs par courtoisie. Ça veut dire que dans la journée, ils avaient pu, aussi bien du côté japonais que du côté français, affûter un petit peu leur langue et réussir à communiquer de façon parfaite.
Mais vous savez, organiser professionnellement des échanges de classe avec des Suisses allemands et des Suisses romands, mais en soirée, on met de la musique et puis ils n'ont pas besoin de parler, mais ils ont d'excellents contacts. Tout n'est pas verbal. Mais les interprètes, effectivement, sont un tampon ou une interface qui a différents rôles. Quand vous pensez à la rencontre du pape avec Gorbatchev, Le pape était polonais. Et certainement que ce pape Wojtyla avait appris le russe. Ils auraient pu parler sans interprète. Mais si le pape avait parlé russe, il se serait en quelque sorte soumis à l'autorité du chef de l'URSS en face de lui. Donc il y a tout ce jeu de pouvoir qui entre en ligne de compte avec l'interprétation. Et puis c'est vrai que comme dans l'exemple que vous dites, moi j'ai fréquenté plusieurs infirmes, que ce soit sourds ou que ce soit aveugles au Japon. On en a dans le monde de l'espéranto, parce qu'ils ont des possibilités, des ouvertures qui sont impressionnantes. Et effectivement, il y a des stratégies qu'on peut très bien comprendre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me trouver sans langue commune dans une ville quelque part où j'ai besoin d'une chose ou de l'autre. Puis on se débrouille, on improvise, puis... on n'arrive peut-être pas à discuter de choses fines et en détail, mais il y a des possibilités de communiquer. Il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins doués pour improviser, mais alors je fais confiance à des sourds qui sont très doués pour trouver d'autres stratégies. Parce que dès qu'il manque un des sens, les autres se développent plus et il y a des gens qui ont des capacités impressionnante, énorme. J'ai habité avec 8 ou 10 jeunes français dans le même hôtel à Cotonou, parce que à côté de chez moi il y a une école pour sourds, et elles discutaient devant ma porte ouverte toute la soirée. Mais c'était très très drôle, parce que elles étaient bien, elles bossaient la journée en mission humanitaire et tout, mais elles se racontaient des histoires drôles. Ça veut dire que vous avez un silence total, puis tout à coup vous avez ha ha ha, puis après vous avez un silence total, puis il vient la suite de l'histoire, puis quand il vient un moment trop, vous avez ha ha ha, avec des décibels folles. C'était très amusant, puis on arrivait à se comprendre. Si vous avez besoin de connexion internet, vous prenez votre téléphone, vous montrez, puis il y a des stratégies.
Oui, justement, je me demandais comment on pouvait avoir une conversation fine. Vous venez de parler de ça, parce que parler, de la pluie du beau temps, si on peut acheter une paire de chaussures ou la connexion internet, ça me paraît là, voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir en espéranto une conférence sur quelque chose de très précis et...
La liste des prix Nobel que je vous ai montré avant, ça vous a pas convaincu? Vous pouvez lire la théorie du professeur Zelten, qui a eu un prix Nobel en mathématiques en 94. Vous avez un livre pont où vous avez sa théorie mathématique en allemand et en espéranto. Puis avec ça, il a gagné le prix Nobel. Ça me semble être une preuve assez claire.
Oui. Une question, vous avez dit qu'il y avait des locuteurs natifs.
Oui.
En espéranto.
Oui.
Alors, expliquez-moi, je ne comprends pas. Oui.
Bon, alors, un jeune homme va à un congrès et puis il rencontre une jeune fille. Je vous donne l'exemple de l'instituteur du Loc qui a rencontré une dame polonaise. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc, les enfants vont, si vous voulez... J'aime pas le terme langue maternelle, parce qu'il arrive quand même qu'on parle avec son père. Donc, il y a la langue maternelle, il y a la langue paternelle. Maintenant, les deux ensemble, ils ont une langue de communication qui, s'ils se rencontrent par exemple dans un congrès ou dans un club local, va être l'espéranto. Puis il y a encore une autre langue, c'est la langue du milieu où ils vivent. Alors, vous avez un monsieur francophone qui rencontre une dame polonaise, il parle espéranto, ces trois langues seront utilisées dans la famille. Maintenant, il se trouve qu'ils habitaient en Suisse francophone, donc ils se sont arrêtés à trois langues. Mais si tout à coup ils habitent à Zurich ou à New York, ils doivent encore ajouter à Zurich l'allemand ou à New York l'anglais. Puis ça, le pouce, ça c'est mes idées qui sont toutes nues dans ma tête et que je dois habiller d'une langue, parce qu'une idée ça sort pas tout nu, c'est pas décent. Donc je dois, sauf si je crie aïe ou quelque chose comme ça. Je vais, même quand on dit au en allemand, puis aïe en français. Bon. Donc, les idées et ces quatre langues, maintenant, il est clair que si je me trouve devant un ferblantier slovaque qui parle espéranto, je vais pas utiliser une de mes quatre, je vais devoir aller dans une autre, parce que je peux apprendre l'espéranto, je peux apprendre l'arabe, je peux apprendre le russe. Il n'y a aucune limite. D'autant plus que quand on apprend l'espéranto d'abord, on apprend les autres langues plus facilement. C'est prouvé scientifiquement, mais c'est une autre conférence. On ne commence pas à 10h10. Il y avait encore une autre question. Deux. Très bien.
Je voulais savoir si est-ce qu'il y a des personnes qui parlent uniquement espéranto ou
non.
C'est une langue qu'on apprend forcément en plus d'autres
choses. Justement, dans une famille, le bébé va être douché avec l'espéranto si c'est la langue des parents, mais je ne connais pas de famille au monde où il n'y aura que l'espéranto. Il y aura les langues d'origine. Bon, il y a des familles qui sont, j'en connais, depuis 4 générations, ils sont locuteurs natifs. Mais il y a toujours la langue du milieu, ils vont sortir dans le bac à sable avec les petits voisins, puis ils vont apprendre la langue du milieu. Même au cas où les parents se limiteraient vraiment à que l'espéranto. Mais tous les parents sont conscients que l'enfant doit avoir des contacts hors de la famille. Ce serait techniquement possible. Si les parents ne parlent que l'espéranto dans leurs 4 murs, mais une famille n'habite pas dans 4 murs.
Oui. C'est bon. Oui, en matière scientifique et en particulier en médecine, on subit une domination de l'anglais tout à fait considérable,
oui.
Puisqu'il ne peut quasiment pas paraître un article sans qu'il y ait au moins un résumé, si ce n'est l'ensemble de l'article, en anglais. Le seul cas de figure, c'est le latin pour l'anatomie, qui heureusement a échappé à cette situation. Et ce qui aboutit à une situation assez grotesque, à savoir que derrière les termes anglais, en plus, les gens ne parlent pas obligatoirement de la même chose, et ce qui amène à des incompréhensions scientifiques tout à fait considérables. Alors je voulais savoir si quelque part on pourrait espérer, puisqu'il y a quand même toute la suite des prix Nobel et de tout un tas d'autres situations où l'espéranto a prouvé qu'il pouvait être utile en la matière, si on pourrait espérer, sous l'égide de, je sais pas, d'UNESCO ou quelque chose comme ça, d'obliger quelque part qu'il y ait au moins le résumé en espéranto, par exemple. Est-ce que ça serait concevable?
Sans problème. Il y a un vocabulaire d'ailleurs qui a déjà paru pour les termes médicaux. Il y a une association mondiale des médecins espérantophones avec un président qui est Monsieur Christophe Clavé de Trèves en Allemagne, avec lequel je collabore parce que Monsieur Clavé, dans ses contacts avec les médecins allemands non espérantophones, il a eu des échos de ce qui s'est passé en Haïti au niveau du tremblement de terre où les ONG se sont installées de manière sauvage sans pouvoir communiquer entre elles, sans pouvoir communiquer avec les gens du lieu, et on ressent maintenant dans le corps médical le besoin d'un vecteur utilisable, étant donné que l'anglais, même simple ou basique, ne donne pas de satisfaction, étant donné ses sens différents, on croit utiliser le même terme, mais ce qui est derrière, c'est autre chose. Tout à fait. C'est connu. On a le même problème avec le mot référendum entre la France et la Suisse. On a le même problème si vous parlez de démocratie, un Chinois a une autre idée que la nôtre, etc., etc. Donc, ce problème du même mot, qui a des sens différents, ça, c'est très fréquent. En espéranto, c'est pas 100% garanti, mais on a en général une signification pour un mot. Donc, on a un accès à la signification qui est beaucoup plus clair et univoque que dans d'autres langues. Je vous donne juste l'exemple avec l'anglais. On m'a expliqué, si vous voulez traduire ou comprendre ce que c'est un Japanese flu vaccine, qui peut être un vaccin contre la grippe japonaise ou un vaccin japonais contre la grippe, ce qui est de loin pas la même chose. Alors, ce que j'ai vu, moi, où j'aurais voulu être une petite souris, c'était à Montpellier, où à l'ouverture avec 2000 personnes, il y a quelqu'un qui s'est trouvé mal. Et le responsable est monté sur scène, ça n'avait pas encore commencé, et a demandé est-ce qu'il y a un médecin dans la salle. Puis il y en a 10 qui sont sortis. Alors imaginez une personne qui est couchée par terre, hein, et puis il arrive un médecin russe, un médecin chilien, celui-là je le connais, c'était José Antonio Vergara, un médecin français, un médecin allemand, etc. Et bon, il y avait évidemment, avec un tellement grand nombre de gens, il y avait monsieur, ce fameux collègue breton. Comment il s'appelle ? Denis-Serge Clopeau, exactement, qui a pris les choses en main parce qu'il était payé pour ça, pour tout le congrès. Il était de nouveau à Lille cette année, d'ailleurs, j'ai dû avoir besoin de ses services. Donc là, on se parle en espéranto, mais c'est vrai que, alors les échanges, imaginez la société des médecins, les échanges, c'est fabuleux. Exactement comme les échanges qu'on peut avoir avec les profs, puisque j'étais prof, c'est ça qui m'intéresse, ou avec les avocats. J'ai entendu des avocats dans le comité de l'association universelle qui plaident avec leur manière, qui argumentent avec les lois, puisque le siège est aux Pays-Bas, on doit respecter les lois des Pays-Bas. On a tous, c'est ça que je trouve génial, parce que les trois avocats qui discutaient, ils avaient le discours de l'avocat avec des arguments, des fondements, des explications, mais il y avait un Québécois, il y avait un Portugais, puis il y avait un de Lituanie, qui avaient chacun leur style national, tout en étant avocat, en train de plaider et tout. Et je suis sûre aussi, au niveau des médecins, on va retrouver ça. C'est très, très, c'est très intéressant, ces contacts entre les professions. Mais c'est sûr, il faut. Alors on est maintenant en train de travailler avec Monsieur Clavé à préparer un cours express sur la base de Duolingo, entre autres, avec un petit document qu'on a, le Pochamico qu'on connaît, qu'on va rééditer dans le cadre des choses pour soignants. Donc tous les exemples grammaticaux seront dans le rapport avec les soins, et Monsieur Clavé va s'approcher de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, etc. On va essayer de relancer ce qui a été fait en 1890, histoire que les gens puissent collaborer avec une langue claire et que tout le monde arrive à utiliser d'une manière efficace. C'est ça. Il faut l'efficacité, la clarté du message.
Alors, il y a un autre intérêt,
oui,
si je peux me permettre.
Oui.
C'est que là, actuellement, si quelque part vous ne publiez pas en anglais, vous n'existez pas.
Oui.
La domination est telle qu'on n'existe pas.
Voilà. Et vous devez en plus de ça...
résumer. Et ce qui fait qu'un certain nombre de publications aux États-Unis paraissent en croyant avoir découvert la Lune, alors que ça a déjà été publié dans d'autres pays, mais avec une barrière de la langue telle que c'est bloqué.
Tout à fait. Alors ça, c'est aussi le problème des traductions si c'est pas en anglais, ça n'existe pas. Exactement comme vous le dites. Et ce qui est très intéressant, je trouve, si je peux revenir aux langues dominantes, c'est les travaux linguistiques de Tof Skutnap Kangas, qui est une linguiste danoise, qui montre l'importance des langues africaines, parce qu'elle dit toute la pharmacopée africaine, on peut la capter que par les langues locales. Et elle prouve dans ses écrits, vous pouvez trouver le blog de Tof Skutnap Kangas. Là où les langues disparaissent, disparaissent aussi les connaissances sur les plantes et l'utilisation des plantes. Et pour c'est une des raisons pour lesquelles les langues locales partout sont un trésor à conserver. Et j'ai pu enseigner l'espéranto à Cotonou. Il y avait un étudiant qui me dit « Ah, je parle français, allemand, anglais, espagnol. » Puis je lui dis « Oui, puis, mais, je sais pas, à fond, Eve, Adja, ah ouais, puis il recommence. Mais les langues africaines, il les avait pas dans le même tiroir dans sa tête. Il était agronome, étudiant. Puis à côté de lui, il y avait un prof à la retraite, un agronome, qui lui a dit, mais, elle a raison, madame, parce que tu vas aller faire des enquêtes auprès des paysans. Tu crois qu'ils parlent français, les paysans du nord du Bénin? Ben non, tu te feras parler les langues locales. Après, ton rapport pour l'UNI, il sera en français. Mais discuter avec les gens pour avoir les informations, il faut les langues locales. Donc on ne peut pas s'en passer, elles sont précieuses. Vous vous sentez libre de quitter la salle si vous êtes fatigué, si vous levez tôt demain. Il y a monsieur que je vais écouter.
Peut-être le bus à prendre aussi, je ne sais pas. Je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur sur ces méchants anglais qui nous dominent. C'est aussi que les Français n'ont pas su faire les structures qui permettent l'éclosion d'une revue de la qualité de Nature ou d'autres. Et je prendrai l'exemple de l'édition. Il y a beaucoup de... On se gargarise des Français qui sont des Québécois, hein, quand même, et donc des Canadiens, mais qui ne sont pas connus du tout en France. ou dans la France actuelle, ou dans le monde francophone, je ne sais pas comment on doit, quelle est la façon la meilleure de le nommer, simplement parce qu'on juge leur langue, leur dialecte, officiellement français n'est pas dialecte, on le juge impropre. Et ce qui est vrai pour les Québécois, c'est aussi vrai pour les écrivains d'Afrique, et encore plus d'Afrique noire, où ils n'existent pas, et la France n'arrive pas à les faire exister sur son propre territoire. Alors ces gens-là, ils passent à l'anglais, ils ont bien raison, hein, au moins ils ont de quoi gagner leur argent, et le marché est plus grand. Plusieurs fois...
Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus.
Mais... non, c'est une provocation gratuite. le titre de la conférence, c'est langue dominante, mais il y a une façon de nommer les langues aussi. J'ai entendu plusieurs fois le mot espagnol. L'espagnol, une bonne fois pour toutes, ça n'existe pas.
C'est une des langues, il y en a deux, qui portent son nom qu'à l'étranger.
Voilà.
Et vous allez nous dire
Les gens du Chili, les Chiliens, ne sont pas sujets du roi d'Espagne, jusqu'à preuve du contraire, donc ils parlent le castillan.
Voilà, le castillan. C'est quoi la deuxième langue qui ne porte son nom qu'à l'étranger?
L'espagnol.
Le
hablamos
espagnol. On est là.
Oui, mais...
L'espagnol, est, le vrai nom c'est castillan, puis à l'étranger on dit espagnol.
Voilà.
Il y a une deuxième qui a le même phénomène.
Exactement.
Une autre.
Ah ben non, pas le
catalan. Non, c'est le chinois qui s'appelle en Chine le mandarin.
Voilà.
Bon, je vous laisse finir.
Non mais voilà, c'était, je jouais sur tendre le coup à ça. Et c'est une dernière remarque, puisque vous êtes contre la cocalisation,
Coca-colanisation.
Je vous laisse le choix du mot.
C'est pas moi qui l'ai inventé.
Ça serait bien de se dégoogliser aussi. Il y a un moteur franco-allemand de recherche qui s'appelle Quant, où justement il ne s'appelle pas ni Query, ni Que cherche, ou son équivalent en allemand. Ça sert toujours un petit peu mieux de quitter oui. Google.
Oui.
Point, c'est QWANT.
Merci beaucoup.
Point.
D'accord. Oui, c'est tout à fait juste. On est colonisé et on n'est pas toujours suffisamment résistant. Madame aimerait dire quelque chose.
Sur la langue espagnole, oui, moi je suis déjà française. Orléanais et française depuis 37 ans. Je suis déjà française, ma France. Je suis très jeune. Et je viens du Chili. Et comme toute l'Amérique latine, je parle espagnol. Et comme le monsieur dit castellano, mais résulta que tout l'espagnol, comme vous le savez, dans toute l'Amérique latine ou en Espagne, c'est le verbe, c'est tous les mêmes. Ce qui change seulement le verbe dans toute l'Amérique latine ou en Espagne, c'est le mot. La seule chose qui peut changer dans différents pays de l'Amérique latine,
et ça, c'est pas grave,
qui peut changer, comme vous le savez, tout le monde le sait, quelques mots de vocabulaire, c'est tout. Mais sinon, l'espagnol, c'est dit castellano parce que c'est une base dite comme. Les Mapuches, qui c'est une langue espéranto, presque. Et c'est pour ça tout à l'heure que les gens qui apprennent le latin, j'ai conçu qu'on apprend le latin, et comme même le français, qui ça dérive du latin et du grec, et nous-mêmes, latino-américains, je veux dire, oui, que j'ai appris, c'est. J'ai capté tout à l'heure, comme vous savez, exprimer le poème chinois. J'ai bien capté. Merci. Et je suis contente, heureuse d'être là.
C'est vrai qu'il y a des termes qui se développent différemment. Dans une même langue, dans différents pays, on a commencé un peu à collectionner ça avec Pierre et Marcel. On a des termes en Suisse qui ne sont pas en France, etc. Et d'autres sont au Québec, tout à fait. C'est tout à fait juste. Maintenant, quand vous parlez d'Amérique latine, étant donné tous les amis que j'ai au Brésil, il faudrait quand même mentionner qu'il y a le portugais aussi. Voilà. Encore une, peut-être la dernière question.
Oui, si vous permettez. Vous avez dit que vous n'aimiez pas le terme de langue maternelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que Ma mère était russe, mon père était letton, mais les deux parlaient très bien et russe, et letton, et allemand. Et j'ai été imprégné de ces trois langues dès mon enfance. J'ai vécu en Lettonie, ensuite en Allemagne pendant la guerre. J'ai même fréquenté deux écoles allemandes. Et je suis arrivé en France en 1949. Je ne parlais pas encore français. Depuis, je l'ai appris assez bien. J'ai même eu le temps de faire la guerre d'Algérie sous l'uniforme français. Donc, c'est vous dire que je suis suffisamment français. Et alors, petit à petit, bien que ma langue maternelle a été le russe, petit à petit, c'est le français qui est devenu, pour ainsi dire, ma seconde langue maternelle. Si je dors et qu'on me réveille en sursaut, je pousse un juron, et c'est un juron français.
Oui, mais le rapport entre père et mère, pourquoi? Alors, moi, je peux dire que je parle l'espéranto comme ma langue, comme ma première langue, mais ma première langue n'a pas à s'appeler plus maternelle que paternelle ou parentale, ou c'est là la question, mais c'est une autre longue discussion. Je crois que je vous remercie, je remercie les organisateurs et je vous souhaite un agréable retour chez vous.